Rappelons-le encore une fois, le mot laïcité vient de laïos, le peuple. Le peuple souverain qui a dû, face à la classe dirigeante, conquérir un certain nombre de droits. Suffrage universel, droit du travail, droit de grève, liberté syndicale. Et pourtant, nous sommes victimes d'un certain nombre de croyances qui viennent remettre en cause le pouvoir du peuple souverain. Nous allons nous appuyer sur les travaux de Bernard Friot qui a mis en lumière 5 croyances que nous allons passer en revue. La première, le patrimoine génère de la valeur économique. À partir de cette première croyance, nous sommes enclins à croire qu'il y aurait une souveraineté du capital sur nos vies. En effet, si je suis propriétaire d'un bien, il serait normal que je puisse en retirer un revenu. Mais au fond, réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Exclusivement le travail. Le travail vivant. Un patrimoine ne génère aucune valeur. Seuls, nous-mêmes, par notre activité, ici et maintenant, générons de la valeur économique. Si donc un patrimoine permet de récupérer des ressources, si un patrimoine est générateur de revenus, c'est parce qu'il permet de ponctionner de la valeur sur le travail d'autrui. Le fait d'être propriétaire de l'outil de travail permet à celui qui ne travaille pas sur cet outil de récupérer une partie de la valeur créée par les autres. Il faut donc lutter contre cette croyance selon laquelle il y a une légitimité à la propriété lucrative de l'outil du travail. Jamais, vous entendez, jamais, nous ne pouvons retirer un revenu d'un patrimoine si nous n'exploitons pas le travail d'autrui. Donc, le premier acte de laïcité, c'est-à-dire d'affirmation de la souveraineté populaire sur l'économie, serait de remplacer la propriété lucrative par la propriété d'usage. La laïcité passe par la séparation de l'État et des croyances. Pour avoir de l'argent, il faut produire de la valeur économique. Première croyance, ceux qui ont de l'argent par le patrimoine, c'est parce que le patrimoine produit de la valeur économique. Deuxième croyance, qui produit cette valeur économique ? Ceux qui vont sur le marché du travail. Les autres n'en produisent pas. Le salaire est un attribut du poste de travail qu'un employeur nous attribue. Nous croyons fondamentalement que quelqu'un qui n'est pas sur le marché du travail n'a pas droit au salaire parce qu'il n'est pas producteur de valeur. Il est utile, très utile, mais il n'a pas droit au salaire qui reconnaîtrait de facto qu'il produit de la valeur économique. Là encore, réfléchissons un peu. Les retraités ne sont pas productifs, ils sont utiles. Ils sont conseillers municipaux, militent dans des associations. Ils n'ont pas d'emploi, pas d'employeur, ils ne sont pas productifs. Les parents qui touchent des allocations familiales sont improductifs. Ils n'ont pas d'emploi, pas d'employeur. C'est la raison pour laquelle ceux qui produisent de la valeur sont solidaires avec eux, mais les parents ne produisent rien. Les chômeurs ne produisent rien. Un chômeur est un privé d'emploi. Vous vous rendez compte ? Il est défini par le fait qu'il ne produit rien. Défini par son manque. Un fonctionnaire d'État, en revanche, n'a pas d'employeur. Un fonctionnaire d'État a un salaire à vie. Il est payé pour son grade, pas pour son poste. Personne ne peut lui dire « Aujourd'hui, je vous embauche, demain, je vous licencie ». Il n'y a pas d'employeur qui le paie. Il y a le trésor public. Les fonctionnaires dépensent, ne produisent pas. Ce sont des gens utiles, mais ils dépensent de l'argent produit par d'autres. Un fonctionnaire ne produit pas son salaire, à la différence de tous les salariés. Croyance totale qui fait que les fonctionnaires eux-mêmes pensent qu'ils dépensent de l'argent produit par d'autres, que ce n'est pas eux qui produisent l'impôt qui les paye, que les salariés du milieu associatif, qui vivent de subventions du Conseil général, et d'autres pensent que ce n'est pas eux qui produisent la subvention. Non, la subvention vient de l'État-providence, évidemment. Quel est donc le remède, la parade que nous avons créée? C'est précisément le salaire à vie comme matrice du travail. Bien sûr que les fonctionnaires produisent leur salaire comme tous les travailleurs. Ils le produisent sans employeur parce qu'ils sont payés à vie. Ils ne passent jamais par la case chômage. Et aujourd'hui, c'est un privilège. Privilège ? Non, c'est plutôt une conquête sociale contre la religion capitaliste. C'est une œuvre de laïcité que de proclamer le salaire à vie comme matrice du travail, comme alternative à l'emploi capitaliste. Nous n'avons pas besoin d'employeurs pour travailler. Nous avons droit à un salaire qui soit un attribut de notre personne. De même qu'un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire parce que son salaire n'est pas lié à son poste. Ceux qui ont conquis le statut de la fonction publique en 1946, en particulier, ont conquis une arme de guerre contre le pouvoir capitaliste en inventant une alternative à l'emploi. L'alternative au chômage, ce n'est évidemment pas l'emploi. L'alternative au chômage, c'est le salaire à vie. Le fait que le salaire soit un attribut de la personne, ce que nous avons inventé pour les fonctionnaires, il faut le généraliser pour toute la population. Faire œuvre de laïcité, c'est séparer l'État de la croyance dans le marché du travail. Premièrement, il faut se battre pour généraliser la propriété d'usage de tous les outils de travail contre la propriété lucrative. Deuxièmement, se battre pour le salaire à vie contre le marché du travail. Voilà ce que c'est que faire œuvre de laïcité, se battre pour l'affirmation de la solidarité du peuple. Troisième croyance, qui passe forcément par la séparation de l'État et de la croyance religieuse, parce que ce sont toujours les croyances religieuses qui sont à l'appui du pouvoir. Le crédit. Le crédit fait l'objet d'une croyance absolument religieuse. Nous pensons qu'on ne peut pas se passer du crédit, qu'on peut le moraliser, qu'on peut contenir le crédit privé par du crédit public. Mais le crédit serait indispensable. Être laïque, c'est séparer l'État de cette croyance. Nous n'avons pas besoin de prêteurs pour financer l'investissement. Nous n'avons pas besoin d'une création monétaire par crédit pour financer l'investissement. Nous produisons environ 2 000 milliards par an. Sur ces 2 000 milliards, il y en a 1 300 qui nous reviennent. 100 milliards comme produit du travail des travailleurs indépendants, 1 200 milliards comme produit du travail salarié sous forme de salaire direct. Vous savez, celui du bas de la feuille de paye. Reste 700 milliards qui vont au profit. Or, le coût du capital, ce n'est pas seulement cela, puisque sur 700 milliards, 300 ne sont pas investis. Les propriétaires empochent 700 milliards, ils en investissent 400, reste 300 milliards d'euros. Mais réfléchissons un peu. Les 400 milliards Après nous avoir été volés, nous sommes prêtés. Pas de contestation, puisque nous croyons que c'est normal qu'il y ait un crédit pour financer l'investissement. Savez-vous, aujourd'hui, que la classe dirigeante passe son temps à voler, puis à prêter et à exiger un retour sur investissement. Ces 400 milliards, c'est nous qui les produisons, ici. Il n'y a donc aucune raison que le produit de notre travail nous soit prêté. Aucune. Il ne nous est prêté que parce qu'il vient de nous être dérobé. Or, la classe ouvrière a inventé le remède, la parade, dans le crédit, par de la subvention d'investissement grâce à l'impôt et à la cotisation sociale. Comment finance-t-on les équipements collectifs ? Par de la subvention. Le Trésor public subventionne, il ne prête pas. Comment a-t-on financé l'investissement hospitalier ? Cet énorme travail d'investissement des années 60 par lequel nous avons transformé un système hospitalier qui était un véritable mouroir en un lieu de soins. Par un appel au marché ou aux capitaux ? Pas du tout. Par la cotisation maladie qui a subventionné l'investissement. Mais qu'est-ce qu'investir ? C'est attribuer une partie de ce que nous produisons à l'entretien et à l'augmentation de l'outil de travail. Il suffit que nous nous approprions cette valeur, que nous l'affections par subvention aux hôpitaux ou aux équipements collectifs. Or, depuis quand les collectivités locales, les hôpitaux, sont sous la coupe des banques ? Depuis que nous n'augmentons ni les impôts, ni les cotisations sociales. Pourquoi ? Parce que cette lutte est abandonnée. Parce que nous croyons que le crédit est nécessaire pour investir. Nous pouvons financer tout investissement par une subvention de caisse d'investissement qui collectera un pourcentage variable du produit intérieur brut. Mais tout cela passe par un combat laïque contre la croyance dans la nécessité du crédit. Quatrième croyance, la croyance dans la réduction du temps de travail comme fondement de la productivité, comme mesure de la productivité. Là encore, nous sommes dans une institution fondamentalement capitaliste et dans une croyance qui nous aliène et qui nous empêche de nous poser comme peuple souverain en matière économique. Nous sommes persuadés qu'il suffirait d'abaisser le temps de travail pour avoir des gains de productivité. Nous souffrons du fait que notre production soit mesurée par le temps de travail. Nous souffrons dans les services publics lorsque le management introduit cette gestion capitaliste par le temps, qui transforme notre outil de production en lieu de protocole. Toutes celles et tous ceux qui sont obligés de les appliquer souffrent de ce mauvais travail que nous leur faisons faire. Tous ceux qui passent du temps à remplir des paperasses pour la gestion du temps souffrent de tout cela, mais ils continuent. C'est ça, le soupir de la religion. La classe ouvrière s'est battue pour une autre mesure de la valeur que le temps, la qualification du producteur. Nous ne sommes plus dans l'emploi. On est à mi-chemin. On est dans la fonction publique où c'est la qualification du producteur qui mesure la valeur. Or, comment mesure-t-on la valeur induite par l'administration dans le produit intérieur brut ? Comment est-ce que les statisticiens de l'INSEE mesurent-ils la contribution à l'administration et à la production de valeur ? En additionnant les salaires des fonctionnaires. Puisque le salaire d'un fonctionnaire mesure sa qualification propre, le fonctionnaire est quelqu'un qui a un salaire à vie, nous mesurons la valeur non pas par le temps de travail, mais par la qualification du producteur. Et toutes celles et tous ceux qui, dans les services publics, sont progressivement avec ce nouveau management sous la dictature du temps, savent toute la régression qu'il y a à passer de la qualification du producteur à la mesure de la valeur par le temps de production. Donc là encore, nous avons inventé une parade. Et nous ne sommes pas démunis. Mais notre incapacité à le générer, notre incapacité à nous battre pour le salaire à vie pour tous, de 18 ans à la mort, comme tous les fonctionnaires. Notre incapacité à nous battre pour la copropriété de tous les outils de travail, contre la propriété lucrative, le fait que nous cherchons des repreneurs très bien nommés, parce qu'ils nous prennent deux fois. Le fait que nous soyons dans l'incapacité de nous battre contre la mesure de la valeur du temps et de généraliser la mesure de la valeur par la qualification du producteur. Le fait que nous soyons dans l'incapacité de nous battre contre le crédit et de généraliser la cotisation comme financement par subvention de l'investissement. C'est parce que nous croyons dur comme fer que le marché du travail est nécessaire, que le crédit est nécessaire, que la mesure de la valeur par le temps est nécessaire, que la propriété lucrative est nécessaire. Cinquième et dernière croyance, la sécurité sociale comme solidarité. Vous voyez que, pour le capital, pour qu'il puisse dominer nos vies, pour qu'il puisse empêcher la souveraineté populaire, il faut qu'il dégage en permanence des croyances religieuses. C'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de pouvoir. Et tout pouvoir s'exprime avant tout et d'abord dans la religion. Revenons, si vous le voulez bien, à la feuille de paye, à sa lecture. C'est nous qui produisons nos cotisations sociales. Nous ne les dépensons pas toutes. Nous les versons à la solidarité. Solidarité avec les retraités, solidarité avec les malades, solidarité avec les familles, solidarité avec les chômeurs. Et c'est cette solidarité qui est en même temps de la prévoyance. C'est la raison pour laquelle nos cotisations sont du salaire différé. Salaire différé que nous récupérerons plus tard. Nous sommes prévoyants et lorsque nous serons nous-mêmes malades, en retraite, chargés de famille ou chômeurs, nous bénéficierons de la solidarité des autres. Mais cette solidarité ne sera jamais que l'expression de la solidarité que nous avons nous-mêmes avec les autres. Mais voilà, nous sommes dans la religion qui veut que un chômeur ne produit pas, un parent ne produit pas, un fonctionnaire de santé ne produit pas, un soignant en général ne produit pas, un retraité ne produit pas. S'il a des ressources, c'est par la solidarité, par la prévoyance que sont les cotisations. Nous adhérons à la religion qui veut que seul celui qui a un emploi produit de la valeur et ceux qui n'en ont pas n'en produisent pas. L'antidote a déjà été trouvé lorsque nous avons imposé justement comme du salaire la cotisation. Toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans le secteur non marchand, les fonctionnaires, les retraités, les parents, les chômeurs, les soignants, produisent de la valeur. Mais cette valeur ne s'exprime pas dans le prix des biens et des services qu'ils rendent, puisque justement, ces services-là n'ont pas de prix. Où se trouve la monnaie ? Dans ce qui a du prix. Donc la monnaie reconnaît la valeur produite par les fonctionnaires. La monnaie reconnaît la valeur produite par les soignants, les retraités, les parents, les chômeurs. Cette valeur se trouve dans le prix des marchandises qui inclut la valeur du non-marchand. Et le non-marchand est produit par ceux qui travaillent dans ce secteur. La pension des retraités, par exemple, est produite par d'autres qui travaillent pour eux. La croyance s'exprime toujours dans le quotidien, dans le tissu de nos vies. C'est la raison pour laquelle il faut que nous nous en débarrassions. La bataille laïque suppose de séparer l'État de l'Église capitaliste. C'est une Église parce qu'elle a un rituel, qui est un rituel religieux. Donnons-en pour finir deux exemples. Nous formatons, pendant 18 ans, en gros entre 3 et 21 ans, nos enfants, pour qu'ils se conforment aux exigences du marché du travail. Vous vous rendez compte ? Les exigences du marché de travail. Pensez à l'inquiétude des parents qui ont des enfants qui, justement, ne se soumettent pas aux exigences du marché du travail. À 18 ans, ce n'est pas grave. À 25 ans, on commence à être inquiet. Mais à 30 ans, on se demande ce qu'ils vont faire de leur vie. Est-ce que ce n'est pas un rituel religieux ? Deuxième exemple. Régulièrement dans la journée, à la radio, sur Internet, dans les journaux, nous voyons défiler les indices de la bourse, du CAC 40. Vous avez un journaliste qui régulièrement nous rappelle le cours de la bourse, des valeurs les plus importantes. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous associe à cette liturgie permanente, pour que nous nous rendions compte que nous vivons dans une société capitaliste et que l'économie doit faire partie de nos vies. Alors, déplaçons nos combats laïcs. Nos sociétés ne sont qu'à mi-chemin dans la lutte de la laïcité. Nous avons à mener un combat laïque qui est le combat contre les croyances qui assurent la domination du capital. Merci de votre attention et un grand merci à Bernard Friot qui nous donne l'occasion de placer la laïcité sur un autre terrain, celui de l'économie.